Il est 13h sur France Inter. Le journal vous est présenté par Mariam El Kurdi. Bonjour Mariam.
Bonjour Karine, bonjour à tous. L'escalade des tensions entre l'Iran et les États-Unis, premier terrain de cette bataille, l'Irak. Nous irons sur place dès le début de ce journal. Les Australiens tentent de sortir de l'enfer des flammes. Les incendies continuent de faire rage. Le bilan s'alourdit à 24 morts, correspondance dans le sud du pays, dans un instant. Au sommaire également, le dossier épineux des retraites et la sortie de crise que souhaite le gouvernement. Semaine chargée pour l'exécutif, nous dira Cyril Gradiani. Notre droit de suite sera consacré au Brésil, l'élection du président Jair Bolsonaro il y a un an. Quel bilan aujourd'hui? Pour en parler, nous serons en ligne avec le spécialiste de l'Amérique latine, Christophe Ventura. Enfin, on parlera de la magie de la Coupe de France en ce moment pour les petits poussés parmi les matchs à suivre. Trélissac, club de National 2 face à l'OM, tout est possible.
France Inter.
La guerre Iran-États-Unis est-elle déclarée? La guerre des mots, oui, visiblement. Donald Trump menace de frapper 52 sites iraniens. Je cite très rapidement et très durement, dont des lieux historiques. Réponse du ministre iranien des Affaires étrangères à la menace américaine. Viser des sites culturels est un crime de guerre. Selon Javad Zarif, les États-Unis s'apprêtent à commettre de nouvelles violations du droit international et à franchir de nouvelles lignes rouges après l'assassinat du général Qassem Soleimani la nuit de jeudi à vendredi. Ce nouveau regain de tension intervient après des tirs de roquettes et d'obus de mortier près de l'ambassade américaine en Irak et sur une base militaire du nord du pays hier. L'Irak, c'est le terrain de bataille entre Washington et Téhéran. C'est aussi là qu'a commencé la procession funéraire de Qassem Soleimani, tué à Bagdad. Funérailles du général et d'Abu Mehdi al-Muhandis, chef militaire irakien pro-Iran, tué en même temps que lui. Omar Waman, bonjour. Vous êtes notre envoyé spécial en Irak. Il y a une véritable ferveur autour de ces funérailles.
Oui, Abu Mahdi al-Mouandi, c'était l'ami, le lieutenant en Irak de Qassem Soleimani. C'est lui qui est allé accueillir le général iranien à l'aéroport de Bagdad vendredi avant d'être la cible peu après d'une frappe d'un drone américain, une frappe chirurgicale qui a littéralement pulvérisé le convoi de véhicules dans lequel se trouvaient les deux hommes. Abu Mahdi al-Mouandi commandait la milice Kataib Hezbollah, milice irakienne, mais totalement inféodée à l'Iran. Elle a fait partie des factions qui ont repoussé, souvenez-vous Maria, les djihadistes de Daesh qui fonçaient en direction de Bagdad en 2014 après avoir pris le contrôle de la ville de Mossoul. Ses funérailles se déroulent, on l'avait dit, à Najaf, où une impressionnante marée humaine a porté son cercueil ce matin. Najaf, ville sainte du chiisme.
Et cela se passe dans un contexte de vives tensions, bien sûr, Iran-États-Unis, on l'a dit, sur le terrain irakien. Elles se traduisent par les menaces des forces chiites pro-iraniennes contre les soldats américains.
Oui, ces menaces viennent justement de cette milice, Kataib Hezbollah, qui compte environ 10 000 hommes. Elle a appelé les forces de sécurité irakiennes à s'éloigner d'au moins un kilomètre des bases américaines à partir de ce dimanche, en fin d'après-midi, à partir de 17h chez nous, 15h en France. Donc on pourrait s'attendre à ce que la situation s'aggrave davantage, d'autant que Kataib Hezbollah, les brigades du Parti de Dieu, a appelé ses sympathisants à se porter volontaires pour mener des opérations, des actions contre ce qu'ils appellent les forces militaires occupantes, évidemment les soldats américains.
Et les États-Unis pourraient être contraints dans ce contexte de se retirer justement du territoire irakien. Les députés irakiens se réunissent aujourd'hui pour discuter du retrait des troupes américaines.
Oui, ce n'est pas la première fois que cette demande est au menu des discussions parlementaires. C'était déjà le cas au printemps dernier, mais la mort de Soleimani ainsi que de celle de son lieutenant en Irak, Abu Mahdi al-Mouandis, pourrait changer la donne. Le camp chiite a été ressoudé par cette attaque et les chiites demandent depuis des mois au Parlement de révoquer l'accord bilatéral qui autorise la présence de troupes américaines sur le sol irakien. Une demande restée longtemps lettre morte, mais qui pourrait aboutir. Mais on peut également s'attendre à un veto, des vétos de certains députés, notamment kurdes ou sunnites.
Merci Omar Waman en direct de Bagdad avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro pour France Inter. Alors quelle est la stratégie américaine après l'élimination de Qassem Soleimani? Donald Trump veut montrer sa force par des opérations ponctuelles, mais il ne veut pas entrer en guerre pour de vrai en Iran. C'est en tout cas l'avis d'Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères entre 92 et 2002. Écoutez.
Autant Trump veut montrer sa force par des opérations ponctuelles, comme il a fait éliminer Baghdadi, enfin, il n'y a pas longtemps, autant je pense que dans cette année électorale qui commence, et c'est son point fixe, hein. Son but c'est pas l'Iran, son but c'est d'être réélu. Donc je continue à penser qu'il ne veut pas entrer en guerre pour de vrai, voyez. Il continue à dire ça d'ailleurs. Il dit « je suis pas là pour commencer une guerre, je suis là pour en finir une ». Bon, après l'engrenage des événements, il va essayer d'empêcher l'engrenage, de pas se laisser entraîner dans une escalade. Alors, à Téhéran, je pense que les durs qui commandent veulent une vengeance spectaculaire. Et il y a peut-être des partisans d'une politique du pire, en disant « si on provoque Trump, si on l'oblige à entrer en guerre, au bout du compte, on va souffrir, mais on va gagner ». Trump va essayer d'éviter de se retrouver en guerre directe avec l'Iran. Mmh. Et je ne sais pas s'il y arrivera. Les Iraniens, qui sont très très rusés, peuvent essayer de l'obliger à faire ça, ce qui serait une erreur fatale au bout du compte, vous voyez.
Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères français, chez nos confrères de France Info ce matin. Escalade de tensions, montée de l'inquiétude côté Occident face aux représailles possibles de l'Iran. Les appels au calme et à la retenue se sont multipliés après la mort du général Soleimani. Téhéran a promis, je cite, de se venger au bon endroit et au bon moment. Quelle sera la nature de ces représailles? Personne ne le sait, mais la disparition de Soleimani a déjà entraîné une conséquence directe sur le terrain. La lutte contre Daesh pourrait avoir du plomb dans l'aile en Irak, Christian Chesneau.
La vengeance est un plat qui se mange froid, prétend le dicton populaire. Mais déjà, la crainte des représailles iraniennes a un impact en Irak. La coalition internationale anti-Daesh, dirigée par les États-Unis, a annoncé la réduction de ses opérations sur le terrain. De son côté, l'OTAN, partenaire de ce combat contre les djihadistes, a fait savoir qu'elle suspendait ses programmes d'entraînement des forces irakiennes. La sécurité des bases américaines où sont stationnés plus de 5000 soldats a été rehaussée et des renforts de GI sont déjà prépositionnés au Koweït. Bref, la liquidation du général Qassem Soleimani, organisateur des milices chiites qui avaient combattu Daesh depuis 2014, a changé la donne. L'environnement où évoluent les soldats américains est désormais ouvertement hostile. Exposés à de nouveaux dangers, ces militaires vont devoir limiter leurs déplacements au moins pour un certain temps et donc relâcher la pression sur le dernier carré des djihadistes qui pourraient en profiter pour repasser à l'offensive.
Et sur le terrain diplomatique, toujours, Londres appelle Téhéran à sortir de son isolement et plaide pour l'apaisement. Pour le ministre britannique des Affaires étrangères, Qassem Soleimani, représentait, je cite, une menace régionale et les États-Unis avaient le droit de se défendre. Place au calme maintenant, dit Londres. L'Union européenne invite à Bruxelles le ministre iranien des Affaires étrangères et appelle une nouvelle fois à la désescalade. Sauver du feu de l'enfer, c'est sans doute le sentiment aujourd'hui des rescapés des incendies qui sévissent en Australie. 100 000 personnes évacuées dans le sud-est du pays, mais une nouvelle victime du feu qui porte le bilan désormais à 24 morts. Des dégâts considérables et une lutte acharnée des pompiers contre ces flammes. Des pompiers qui vivent une situation inédite. Ils l'ont dit à Gaël Joly, notre envoyé spécial à Kouma, au sud de Canberra, où les pluies tant attendues permettent de souffler un peu.
Ici, on a vraiment l'impression d'être dans le jour d'après, le sentiment d'avoir évité le pire après cette journée noire d'hier. Tous les pompiers à qui j'ai pu parler tout à l'heure vous le disent, c'est l'expérience la plus effrayante de leur vie. Ce ciel noir à 4 heures de l'après-midi, cette chaleur, ces sauts de feu et cette peur qui tenaille le ventre face au mur de flammes. Certains n'ont pas dormi depuis près d'une semaine, ils sont à fleur de peau. Ils le disent encore choqués par la violence des flammes, le visage couvert de cendres. Certains sont partis dormir quelques heures tout à l'heure, retrouver leur famille angoissée. On l'imagine, mais le répit sera de courte durée car ici en Australie, sur la centaine de feux qui sévissent toujours, la moitié sont hors de contrôle. Il suffit que le mercure grimpe et que le vent s'agite pour que le pire revienne. À la question « tiendrez-vous le coup ?», les soldats du feu haussent les épaules. « On n'a pas le choix », disent-ils. « Personne d'autre que nous ne peut combattre le monstre. » Ils estiment qu'il faudra encore peut-être 4 longues semaines de combat pour maîtriser le feu. À Kouma, Arthur Gerbeau, Gaël Joly, France Inter.
En France, le gouvernement va-t-il parvenir à éteindre la colère des grévistes mobilisés depuis plus d'un mois contre la réforme des retraites? Lors de ses vœux pour 2020, Emmanuel Macron a chargé son premier ministre, Édouard Philippe, de trouver la voie d'un compromis rapide. Semaine prochaine chargée avec un appel à 2 journées de mobilisation côté syndicat, les 9 et 11 janvier. Une nouvelle table de discussion entre le gouvernement et les partenaires sociaux. C'est une semaine cruciale qui s'annonce pour le gouvernement. Et la première étape de la tentative de sortie de crise commence dès demain, Cyril Gradiani.
Sortir de la crise pour mieux entrer dans cette nouvelle année, c'est certainement un des vœux que pourrait faire l'exécutif. Après un mois de grève contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron réunit demain le premier conseil des ministres de 2020. Le gouvernement lui présentera ses vœux. Juste avant, ses ministres, comme le veut la tradition, se seront réunis au ministère de l'Intérieur pour un petit déjeuner de travail avant de parcourir à pied les 50 mètres qui séparent l'hôtel Beauvau du palais de l'Élysée. Alors comment sortir d'un conflit où chacun campe sur ses positions? Comment trouver un compromis rapide avec les syndicats qui le veulent? Mission confiée par le chef de l'État, Édouard Philippe. Ce conflit ne peut plus durer, explique ce matin Bruno Le Maire dans le JDD. Les principaux dirigeants de gauche, eux, dans une tribune, demandent encore le retrait de la réforme. Ce soir, tous les regards seront tournés vers Laurent Berger, invité du 20h de France 2. Chaque camp fourbit ses armes. Nouveau round d'observation avant cette semaine qui est décisive, pas seulement pour la réforme des retraites, mais surtout pour la suite du quinquennat.
Cyril Graziani pour France Inter. On vous en parlait ce matin sur notre antenne. Cédric, l'homme qui a fait un malaise cardiaque vendredi à Paris pendant une interpellation de la police, est mort durant la nuit. C'est son avocat qui l'annonce sur Twitter. Il avait lancé hier un appel à témoins pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Son client a peut-être fait l'objet, selon lui, d'un plaquage ventral ou d'autres gestes qui mènent souvent à l'asphyxie. L'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, a été saisie.
France Inter, le journal de 13h. Maria Melchiordi.
On place à notre droit de suite maintenant. C'était il y a un an, l'élection présidentielle au Brésil. Le pays bascule après 13 ans à gauche. La victoire du candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, celui qu'on surnomme le Trump des tropiques, l'emporte haut la main en octobre 2018 face au candidat de Lula, l'intellectuel Fernando Haddad. Bolsonaro se retrouve à la tête d'un pays profondément divisé politiquement 30 ans après le retour de la démocratie. Ses partisans perçoivent Bolsonaro comme un messie capable de sortir le pays de la corruption. À ce moment-là, Lula est en détention. Bolsonaro, lui, est vu comme un homme propre, entre guillemets, qui n'a rien à se reprocher. Voici ce qu'on disait de lui sur France Inter au lendemain de son élection. C'était le 29 octobre 2018.
Le Brésil, immense pays, le plus grand de l'hémisphère sud, un géant de 210 millions d'habitants. Le Brésil a basculé hier à l'extrême droite. Nul pronunciamento ou coup de force, non. À plus de 55%, les Brésiliens ont élu un président néo-fasciste, Jair Bolsonaro.
Nous libérerons le Brésil et les affaires étrangères, de relations internationales entretenues selon des critères idéologiques auxquels elles étaient soumises ces dernières années. Le Brésil ne sera plus séparé des pays plus avancés. Nous rechercherons des relations bilatérales avec des pays qui peuvent ajouter de la valeur économique et technologique aux produits brésiliens. Nous allons récupérer le respect international pour notre Brésil bien-aimé.
Derrière le discours de Bolsonaro, je vous rappelle son programme contre l'insécurité. Il promet de faciliter le port d'armes. Après la récession de 2015 et 2016, il prône un choc libéral dans l'économie. Il veut faciliter l'exploitation des ressources naturelles en Amazonie, sans oublier son apologie de la dictature militaire des décennies passées ou ses dérapages homophobes, racistes et misogynes.
Un journal présenté par Frédéric Mettezo le 29 octobre 2018. Jair Bolsonaro, élu président du Brésil il y a un an, investi officiellement le 1er janvier 2019. On vient d'entendre ses premières phrases au lendemain de son élection. Durant toute sa campagne, on l'a entendu, il prononce un discours populiste, d'extrême droite, complotiste, religieux, rejet des minorités, projet ultra-sécuritaire, discours climato-sceptique, discours anti-corruption. Quel bilan peut-on faire de son mandat un an après? Pour l'en parler avec nous, Christophe Ventura, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Amérique latine. Jair Bolsonaro a-t-il tenu toutes ses promesses électorales, d'abord en matière de corruption par exemple, sachant notamment que l'un de ses fils, Flavio, est sous le coup d'une enquête pour blanchiment d'argent?
Ben voilà, ça c'est le thème sur lequel le compte est le moins, son programme initial, puisqu'effectivement le combat contre la corruption aujourd'hui au Brésil n'a pas changé la situation. L'affaire Lavajato est toujours en cours, avec toutes les polémiques qu'elle charrie. L'entourage de M. Bolsonaro, et comme vous venez de le dire, en particulier ses fils, sont directement touchés désormais par des soupçons de corruption sur des agissements qui avaient à voir avec les mandats antérieurs qu'ils avaient, puisqu'ils ne sont pas arrivés en politique avec l'élection de leur père, mais ils sont dans la politique brésilienne depuis de nombreuses années, malgré leur jeune âge. Et donc l'entourage est également touché. Il y a l'affaire aussi Marielle Franco qui a secoué le pays l'année dernière, qui révèle aussi des accointances tout à fait louches entre, disons, l'entourage de Bolsonaro et puis, disons, des univers qu'on appelle les miliciens au Brésil, qui sont un peu finalement des sortes d'organisations paramilitaires ou de la pègre, en tout cas des choses un peu mafieuses. Enfin, tout ça entoure la famille Bolsonaro, et aujourd'hui la lutte contre la corruption est plutôt ce qui est au point mort. D'ailleurs, c'était la remarque de l'hebdomadaire hebdomadaire The Economist il n'y a pas très longtemps, britannique, qui révélait que sur ce champ-là, effectivement, l'échec pour l'instant de la politique Bolsonaro était avéré.
Voilà, pour les moins, Bolsonaro, c'est aussi celui qu'on surnomme le Trump des tropiques. Il incarne, on l'a entendu, le rejet des minorités, notamment les noirs, les homosexuels, les populations autochtones. Quelles sont les conséquences de ces décisions et choix politiques aujourd'hui ?
Bien, aujourd'hui, je crois qu'il faut resituer cette première année de mandat de Bolsonaro dans un Brésil qui, comme vos reportages l'indiquaient, est un Brésil qui n'est pas du tout pacifié ou apaisé. Au contraire, c'est un nouvel épisode, un nouveau développement de la crise politique, voire démocratique, que connaît ce pays depuis à peu près 2016 déjà. C'est un pays ultra polarisé qui laisse d'ailleurs
très
sur
divisé,
le chemin
hein.
beaucoup de... Oui, très divisé, c'est ce qui caractérise la vie politique brésilienne, des institutions qui sont sous forte tension et souvent en concurrence entre elles, entre le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire. Un rôle des médias aussi très important dans la vie politique, très polarisé, qui laisse d'ailleurs sur le bord du chemin des dizaines de millions de Brésiliens qui aujourd'hui disent ne pas vouloir choisir finalement entre les représentants politiques brésiliens, que ce soit Bolsonaro, que ce soit les gens proches du Parti des Travailleurs ou d'autres partis. Il y a une crise politique de défiance qui est très forte et dont l'arrivée de Bolsonaro n'est qu'une illustration nouvelle. Donc un pays polarisé et un pays qui continue de connaître aussi des difficultés économique et sociale qui s'aiguise en réalité depuis plus d'un an en matière de chômage qui a plus de 12%, en matière d'informalité, plus de 40% des Brésiliens travaillent sans contrat de travail, de remontée des inégalités sociales, enfin de tous les maux finalement de la société brésilienne qui, loin d'être en recul aujourd'hui, reprennent de la force dans ce Brésil de Bolsonaro.
Et concernant les minorités, on peut dire qu'elles sont menacées plus que jamais ? En danger de mort ?
Oui, pardon. Il est évident que parmi les premières choses qu'a fait Bolsonaro en arrivant au pouvoir, il y en a eu deux. La première chose, c'est de prendre une décision qui finalement affaiblissait le poids et l'institutionnel et la représentativité des communautés indigènes au Brésil, puisqu'il avait décidé que désormais ce serait son ministère de l'Environnement qui attribuerait les terres protégées pour les communautés indiennes. Donc c'est derrière tout ça tout un affaiblissement de leur pouvoir et de leur protection. Et puis la deuxième, ça avait été d'arrêter les financements publics, tout financement public qui visait à financer dans les écoles en particulier les programmes contre la lutte contre la discrimination, en particulier vers les communautés LGBT ou homosexuelles qui, si officiellement elles ne sont pas attaquées par le pouvoir bolsonarien, en réalité le sont par le fait qu'il y a un arrêt des financements et donc une sorte de dépérissement par inanition, si je puis dire, à travers l'éducation nationale, etc., de tous les programmes qui visent finalement à lutter contre ces discriminations et en particulier contre les minorités dont vous parlez. Donc c'est aujourd'hui effectivement la situation.
Merci Christophe Ventura d'avoir accepté notre invitation sur France Inter. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et spécialiste de l'Amérique latine. Les mauvaises surprises en cette période de fête de fin d'année. Gros coup dur pour les ostréiculteurs du Morbihan. Ils sont touchés, eux aussi, comme leurs collègues de la baie du Mont-Saint-Michel, par un virus qui contamine les huîtres. Le virus de la gastro-entérite, potentiellement dangereux pour l'homme. Plusieurs arrêtés préfectoraux ont été pris dans le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. Ils interdisent le ramassage et la commercialisation des coquillages. Une catastrophe pour Renan Henry, ostréiculteur près de la Trinité-sur-Mer. La cause de cette contamination, selon lui, c'est l'obsolescence des réseaux d'assainissement. Il demande une aide urgente de la part du gouvernement.
Si la qualité de l'eau ne revient pas immédiatement, et on demande vraiment un véritable plan Marshall pour refaire tous les réseaux d'assainissement qui a fermé, pas au bout de 2 ou 3 ans d'études et de demandes d'autorisation de ceci, cela, il va falloir que ça s'active rapidement parce que sinon, pour nous, c'est la fin. On est en train de monter un dossier puisque nous allons intenter une action juridique également. Nous rencontrons la semaine prochaine à la fois le ministre de l'Agriculture et de la Pêche et un cabinet d'avocats pour nous aider dans la démarche juridique que nous allons lancer. S'il n'y a pas un minimum de solidarité nationale, eh bien, on ira en justice parce qu'il y en a marre que ce soit encore une fois les pollués qui soient les payeurs. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes les victimes de cette situation. Ça fait des années qu'on demande à ce que le minimum soit fait et même le minimum n'est pas fait. C'est honteux.
Renan Henri, ostréiculteur dans le Morbihan, au micro France Bleu de Valentin Belleville. Le terrain où tous les rêves sont permis, le terrain de foot, bien sûr, 32e des finales de la Coupe de France. L'OM s'apprête à affronter un petit démon, entre guillemets, cet après-midi. Un club de National 2, Trélissac à Limoges. Plus petit, certes, mais pas sans danger. Il y a un an, les Marseillais avaient vécu l'humiliation face à un club de 4e division, Andrézieux-Boutéon. Ça leur a pourri leur deuxième moitié de saison. Alors, l'entraîneur de l'OM se méfie, bien sûr. Quand dit-on côté Trélissac, c'est peut-être l'occasion de réaliser un exploit, comme l'explique leur défenseur Lassana Diakabi.
C'est une occasion de se montrer, de montrer notre travail, ce qu'on fait de bien, ce qu'on sait faire et de faire parler un peu de nous, encore un peu plus. On est dans une situation difficile en championnat, il faut serrer les coudes, du coup la solidarité va être importante ce match-là aussi, donc pour le reste de la deuxième partie de saison aussi. Donc si on peut commencer dès ce week-end, être vraiment solidaire et un groupe soudé, je pense que ça nous facilitera pour notre objectif en championnat qui est le maintien et pour ce match-là forcément.
Voilà, on verra coup d'envoi 14h15. Autre rencontre où l'on va peut-être faire le grand écart aujourd'hui. Lina Montlhéry, club de régional 1 face au PSG, 5 divisions entre les deux équipes. Mais 15 000 supporters pour pousser derrière le club essonien du jamais vu dans le village. Coup d'envoi 20h55.